Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans le film qui a changé ma vie. Je m'appelle Junior, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode où j'ai le plaisir tous les 15 jours de recevoir un ou une invitée que l'on va apprendre à connaître à travers son expérience de visionnage d'un film qui l'a profondément marqué au point d'avoir toute une histoire qui l'explique. Il peut s'agir d'un film qui a été une source de vocation ou d'inspiration sur le plan professionnel ou personnel, mais il peut s'agir aussi d'une œuvre du 7e art qui fait remonter à la surface divers souvenirs comme une rencontre, une rupture, des moments de joie ou d'autres plus douloureux. L'objectif de ce podcast est que l'histoire que vous allez entendre vous donne à votre tour envie de découvrir ou redécouvrir un long métrage. Petit message habituel, si vous aimez ce podcast et si vous souhaitez m'aider à le faire connaître auprès d'un large public, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict. Je me ferai un plaisir de lire vos messages ici même en fin d'émission pour vous remercier directement. Aujourd'hui, 26e épisode dans lequel vous allez faire la connaissance de Claire qui voue un amour inconditionnel pour le film de Christopher Nolan, Interstellar, qu'elle a pu découvrir lors de sa sortie en salle il y a maintenant 7 ans. Ce long métrage n'a cessé de revenir dans la vie de Claire. À chaque coup dur, il fallait absolument que la jeune Alsacienne le regarde, mais elle était loin de s'imaginer que les images de ce film allaient lui sauter aux yeux au moment où elle s'y attendait le moins. Avec Claire, on a parlé de voyages, d'Islande, de glaciers, d'aurores boréales, du cinéma de Nolan, de Cooper, de physique quantique, de relations père-fille ou encore de pic à glace. Oui, vous avez bien entendu, mais promis, pas de référence à Basic Instinct sur ce coup-là. Je vous propose de découvrir l'entretien enregistré avec celle qui à 29 ans travaille aujourd'hui en tant que chargée de communication à la ville et Eurométropole de Strasbourg, juste après un extrait de la bande-annonce d'Interstellar.
Phase d'allumage moteur principal H-10.
Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider.
9.
Professeur, j'ai des enfants. Il faudrait que je parte combien de temps ?
8.
Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance.
7.
Murphy, il faut que tu me parles.
6.
Il faut qu'on règle ça avant que je parte.
Tu sais même pas quand tu reviendras.
5. Allumage moteur principal.
Tu ne pouvais pas dire à ta fille que t'allais sauver le monde.
Non.
4.
Quand tu deviens parent.
3.
Il y a une chose qui te paraît très claire.
2.
Tu veux tout faire pour que tes enfants se sentent en sécurité.
1.
Bonjour Claire.
Hello Junior.
Sois la bienvenue dans le film qui a changé ma vie. Merci beaucoup en tout cas de prendre le temps de répondre à mes questions pour parler d'un immense film, Interstellar, un film de Nolan sorti en 2014. En quelques mots, est-ce que tu peux nous faire un résumé tout simple de ce film si complexe ?
Donc, pour poser le contexte du film, on est dans un futur proche. Le dérèglement climatique a asséché nos terres et les ressources se font de plus en plus rares. Donc, c'est une crise alimentaire qui s'est installée et qui fait rage hein, dans le monde entier. Coupe, donc c'est notre personnage principal, hein, qui est incarné par Matthew McConaughey, est au cœur du sujet puisqu'il est lui-même agriculteur et il voit bien que plus les années passent, moins cette situation laisse de chance aux générations futures de survivre dans ces conditions. Quand on parle de générations futures, il y a aussi évidemment ses deux enfants. Un jour, en rentrant d'un match de baseball, le protagoniste, donc Coupe, va remarquer que de la poussière est entrée par les fenêtres de sa maison et s'est déposée sur le sol de la chambre de sa fille de manière plutôt inhabituelle. Pareil, hein, pour remettre le contexte, la sécheresse a fait qu'il y avait des tempêtes de sable, hein, justement, très fréquemment, donc ils étaient tous très habitués. Hein. Mais là, c'était plus vraiment la manière dont cette poussière a été déposée sur le sol qui était vraiment surprenante. Et qui l'a titillé, quoi. Donc, c'est avec l'aide de sa fille, dont il est très proche, hein, donc sa fille Murphy, incarnée par Jessica Chastain, ils en déduisent tous les deux rapidement que ce phénomène est dû à la gravité. Mais surtout que ce sont des données binaires communiquées par on ne sait trop qui à ce moment-là. Celles-ci vont les mener avec sa fille devant les locaux secrets de la NASA. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que notre fermier adoré n'était autre qu'un pilote de la NASA avant d'enfiler sa salopette.
Parce qu'il n'avait pas le choix, en effet.
Voilà. Exactement, il n'avait pas le choix et il a dû se reconvertir parce que le monde, on a voulu ainsi, quoi. Il revoit le Dr Brand, donc incarné par Michael Caine, qui travaille visiblement depuis des années à une possible échappatoire pour l'homme. Donc une équation qui permettrait d'envisager une vie ailleurs que sur Terre et pour de meilleures conditions.
Mais il faut donc ce qu'il appelle le plan A.
Exactement. Mais il faut d'abord traverser un trou de ver. Selon Brand, justement, ce trou de ver a été formé par une forme intelligente, hein, et non naturellement, parce que sa taille et sa durée sont techniquement impossibles. Donc c'est là où le film devient un peu compliqué pour les gens qui le voient pour la première fois, du moins.
Ne m'en parle pas. Je me permets d'intervenir dans ton résumé parce que je confirme que c'est compliqué. Pour les plus pointilleux là, qui nous écoutent et les plus pointilleuses, en fait, pour souligner ce que tu dis, il s'agit d'anomalies gravitationnelles dont la plus grave a entraîné une perturbation dans l'espace-temps, donc ce qui crée ce trou de ver qui est placé juste à côté de Saturne. Et cet endroit, en fait, est destiné à mener vers d'autres galaxies dans lesquelles on pourrait justement amener les Terriens pour leur survie.
C'est ça, exactement. D'ailleurs, à un moment, on a un des collègues de coupe qui résume la chose de manière assez évidente pour lui et en même temps pour nous en tant que spectateurs, c'est assez compréhensible. Il nous fait comprendre que ce trou de ver est finalement un raccourci quoi, pour passer effectivement dans d'autres galaxies. Donc la mission de coupe est simple, au final, partir avec un équipage de 3 personnes, traverser un trou de ver positionné près de Saturne et explorer 3 planètes et surtout sauver l'humanité de sa propre extinction.
Très bien. Le film, évidemment, réalisé et scénarisé par Christopher Nolan avec l'aide de son frère, Jonathan, au casting, donc Matthew McConaughey, tu l'as dit, Anne Hathaway, Michael Caine, John Lithgow, Jessica Chastain, Casey Affleck, Mackenzie Foy, Timothée Chalamet, que l'on voit également et qui est devenu célèbre depuis. Le film donc a débarqué dans les salles de cinéma françaises en le 5 novembre 2014, et il a engrangé 2 600 000 entrées, je vais arrondir en gros. C'est pas le plus gros succès de Nolan, d'ailleurs, il est par exemple très loin d'Inception, pour donner une idée, qui avait fait plus de 6 millions d'entrées. Il est assez loin. Donc, nous sommes en 2014. Déjà, la première rencontre avec ce film, elle s'est opérée quand ? Est-ce que c'était au moment de sa sortie ou est-ce que c'était bien après ?
Alors non, c'était effectivement au moment de sa sortie, parce que moi, je commençais à m'intéresser au cinéma depuis un petit moment et j'avais découvert justement Nolan. J'ai découvert la première fois avec The Dark Knight, qui est un film que j'ai sous-estimé pendant très longtemps, justement, où avant, je me concentré plus sur du cinéma d'auteur. Puis un soir, j'ai des amis qui me disent « Ouais, on va regarder The Dark Knight. » Je dis « Oh non, pitié, pas un film de kéké.
» Le mal incarné. Ouais.
J'étais là « Non, Batman, mais quel enfer. Ça va être, je sais pas, l'univers de Balour. » Enfin, je me suis imaginé un truc qui correspondait pas du tout à ce que j'aimais. Moi, j'aimais voir 500 jours ensemble. J'aimais voir des films poétiques. J'adorais les drames. Il n'y a que ça qui marchait, enfin, sur moi en tout cas. Et puis ce soir-là, j'ai ce pote-là qui lance The Dark Knight dans son appart à Strasbourg. On était plusieurs, on se pose. Et j'ai été transportée par le film. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé tout ce temps, en fait ? Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est The Dark Knight, en partie, qui m'a fait tellement aimer le cinéma. Alors que c'était pas du tout mon style à la base, mais j'ai trouvé que ce film était tellement juste sur plein de points, en fait. Il y a Christian Bale, dont je suis complètement fan. Il y a Michael Caine qui me fait chialer à chaque fois que je le vois.
Voilà, c'était le... toujours bref et toujours extrêmement précieux. Exactement. Chaque personnage qu'il joue.
Exactement, et il vaut de l'or. C'est comme tu dis, il est précieux, il vaut de l'or. À chaque fois qu'il y a une apparition, elle...
Tout ce que tu nous expliques là, c'était en 2014 ?
Non,
tu as vraiment découvert Nolan en 2014 ou c'était bien avant ?
Non, c'était bien avant. C'était bien avant, justement. En fait, c'est important dans le sens où c'est quand je suis tombée complètement amoureuse du cinéma de Nolan que j'ai attendu les sorties de ses films. Et c'est pour ça que quand Interstellar est sorti, je suis allée le voir vraiment en salle au cinéma.
Alors, ça se passe comment ce jour-là ? Déjà, avant même de mettre un pied dans la salle, on est enthousiaste,
ah ouais.
On est hypé par la bande-annonce, par le résumé. Dans quel état d'esprit tu étais ?
Alors, il y a un truc qui est bizarre, c'est que je déteste les bandes-annonces. En fait, je trouve que la plupart du temps, elles sont très très mal faites. Elles font pas du tout une bonne promo d'un film, donc j'évite au maximum de regarder des bandes-annonces. Je vais plus me renseigner sur un résumé, sur un casting, sur l'histoire du réalisateur, sur l'histoire du film, sur la production. Enfin, c'est plus ça qui va m'intéresser qu'une bande-annonce, parce que je trouve qu'une bande-annonce, soit elle en dit trop, soit elle en dit pas assez, soit elle dit mais complètement de la merde, elle est complètement à côté de la plaque par rapport à l'histoire du film, à sa chute, enfin voilà. Moi, c'était plus, voilà, il y avait des décomptes, il y avait, sur les réseaux sociaux ou quoi, on voyait du teasing dans tous les sens, évidemment, c'était inévitable, c'est un peu le Game of Thrones de l'époque.
Hein. Complètement.
Forcément, les gens l'attendaient, ce film, hein, ça devait, c'était une belle promesse aussi, quoi. Quand on y allait, j'étais avec des amis, et j'ai un trou, mais je me demande si je suis même pas allée à l'avant-première. Bon, l'équipe était pas là du tout, mais j'avais tellement hâte de le voir, je me demande si je suis pas allée à l'avant-première, ou du moins, le jour de la sortie, quoi. J'ai l'impression qu'avant, il y a quand même beaucoup plus de gens qui allaient au cinéma le jour de la sortie des grands films. Et du coup, c'était blindé, quoi. On a dû aller super tôt. Enfin, bref, c'était incroyable. Et ça a été une claque, mais monumentale, quoi.
Et c'est pas du tout bizarre de dire que tu supportes pas les bandes-annonces. Moi non plus, d'ailleurs. Il faut, pour ceux qui ne le savent pas, préciser aux auditrices et aux auditeurs que les bandes-annonces sont faites par les services marketing du film.
Exactement.
Qui n'ont absolument aucune connaissance artistique pour savoir faire un montage, respectueux de l'œuvre, sans la dénaturer, que ce soit en disant trop ou en disant pas assez. Donc ça crée parfois un gros décalage avec le résultat final.
C'est ça.
Ils connaissent rien. Le seul but, c'est d'appâter le chaland, de faire venir les gens à tout prix. Ils y font n'importe quoi. C'est juste pour le préciser.
Tu as raison. Hein. J'ai l'impression qu'une bande-annonce va pas du tout cibler le bon public. Tu vois, j'ai l'impression que ça va rester trop généraliste, qu'on veut attirer le plus de monde. Évidemment, comme tu dis, c'est marketing. Hein.
Quand tu es dans la salle, installé tranquillement, que le film se développe, il dure plus de 2h45, est-ce que tu peux mettre des mots sur ce que tu ressentais? Est-ce que tu t'es dit « putain, je suis pas déçu » Est-ce que tu te dis « je suis dérouté, je suis perdu » Qu'est-ce qui traverse ton esprit pendant que tu vois Interstellar pour la première fois?
Beaucoup d'émotions, parce que j'ai des frissons pendant tout le film. Physiquement, j'ai la chair de poule, j'ai des frissons, je pleure beaucoup parce que je le trouve beau, en fait, ce film, et il me fait voyager, il me fait vivre beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Et tu vois, il y a des films où quand il se passe quelque chose de beau et pas forcément triste, moi ça me fait pleurer, tu vois. Et en fait, tout le film, je trouve que tout ce qui se passe est incroyable. Il y a cette aventure qui est incroyable, et en même temps, il y a des scènes, bon, on les présente plus, hein, des scènes qui sont très tristes, qui sont très marquantes. Et il y a la musique qui, pour le coup, je pense que c'est ma BO préférée des films de Nolan. Mais vraiment, la musique du film est incroyable. Même au-delà de la musique, hein, le mixage son... Hein, enfin, on en parlera plus tard, mais les minutes qui passent pendant qu'ils sont sur la planète Miller, il me semble, ça fait partie aussi d'un rythme qui est dans le film. Et voilà, donc ce que je me dis pendant tout le film, c'est waouh, toutes ces émotions, et en même temps, je comprends que dalle à ce qui se passe, tellement c'est incroyable. Et je me disais, chaque scène, c'était une nouvelle claque. Donc je me disais, est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Est-ce qu'il va vraiment se passer ça? Parce que j'ai un vrai problème, moi, c'est que j'aime trop anticiper ce qui va se passer. Et je veux toujours deviner ce qui va se passer. Donc ça turbine là-dedans, tu vois. Je suis jamais posée devant un film. Et en même temps, quand je suis au cinéma, je vais voir la pire bouse que je vais kiffer. Je sais pas pourquoi. En fait, j'aime être dans un cinéma. J'aime avoir le son du cinéma, avoir l'écran, voir les gens. Enfin, il y a une ambiance, il y a vraiment un truc unique. Donc, c'est une des plus belles expériences que j'ai pas vécues au cinéma.
Quand tu sors de la salle de cinéma, évidemment, on débriefe avec les copains. Comment vous en parlez de ça? Est-ce que tu arrives à déjà te remettre tes émotions? Et est-ce que tu arrives à mettre des mots sur le pourquoi tu trouvais ce film génial dès la sortie de la salle?
Ben, franchement, je me souviens pas trop dans le détail, hein, mais je sais que déjà, on est resté assis très longtemps, encore dans la salle. Et on s'est regardé sans parler, quoi, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer, en fait? On vient de vivre une expérience dingue. Et j'étais avec des amis qui étaient un peu plus à l'aise avec le sujet, au niveau aussi physique, scientifique. Et ils ont commencé à parler de plein de choses un peu plus techniques que moi, j'étais encore en train de rêver, tu vois. J'étais encore dans ma bulle, il fallait que j'atterrisse. Et puis souvent, après un film, j'ai besoin de lire des choses sur le film. Donc moi, j'étais pas très bavarde. J'avais encore envie de vivre mon moment.
pareil, moi c'est marrant, tu fais remonter ces souvenirs-là à la surface, mais il y a toujours le pote, la pote qui va commencer à partir sur les questions scientifiques, à te parler de trous de ver, de trous noirs, de quantique. Ouais. On a dû te parler de théorie des cordes.
Oui, c'est ça.
Je me souviens que c'est...
Exactement.
Et puis au-delà de ça, tu en étais où dans ta vie ? Tu avais quel âge à ce moment-là et qu'est-ce que tu faisais dans la vie ?
C'était il y a 7 ans, donc j'avais 22 ans. J'étais étudiante en école de com. Ouais, non, je vivais une vie plutôt banale, hein, tu vois, il n'y avait rien de... Je ne vivais pas à Strasbourg, je vivais encore chez mes parents, je faisais les allers-retours pour aller en cours et du coup, tu vois, quand il y avait des moments comme ça, je dormais chez mon meilleur pote ou chez d'autres amis, je dormais chez eux. Mais c'était pas un moment marquant de ma vie, quoi.
Je serai là-haut combien de temps ?
Dur à dire. Des années ?
J'ai des enfants, professeur.
Alors allez là-haut, allez les sauver.
C'est qui, eux ?
Nous avons commencé à détecter ces anomalies gravitationnelles il y a presque 50 ans. Principalement un léger décalage de nos instruments dans la haute atmosphère. D'ailleurs, il me semble que vous en avez connu un vous-même.
Ouais, au-dessus du détroit. Mon crash, un truc avait flingué mes commandes électriques.
On va y venir à pourquoi tu as choisi ce film. C'est intéressant parce que, allez, je vais vous livrer un petit secret aux auditrices et aux auditeurs. Je ne connais jamais l'intégralité des histoires que mes invités racontent. Jamais. J'en connais l'amorce. L'angle que l'émission va prendre, mais je ne sais pas ce qu'ils vont me raconter dans l'intégralité. Et il y a visiblement tout un cheminement pour toi, Claire. Qu'est-ce qui fait qu'il compte tellement pour toi, au-delà du visionnage sur lequel on va revenir, bien sûr ? Quel rôle ça a joué dans ta vie à un moment donné ?
Alors, en fait, Interstellar, après l'avoir vu une première fois au cinéma, j'ai dû le revoir avec des potes, les mêmes potes qui étaient au ciné. Hein. Et j'ai voulu bêtement le montrer à mes parents. Qui m'ont abandonné au bout d'une heure. Ils m'ont laissé toute seule dans le salon, mais bon, moi, je kiffais mon moment.
C'est fou comme les parents abandonnent vite, ça, je connais bien. Ouais.
Mais tu sais, tous les films de Nolan, hein. Moi, mes parents, ils accrochent pas du tout avec ce cinéma. Mais... Et oui, alors, donc, après l'avoir vu au cinéma, j'ai dû le regarder 2-3 fois de mon côté, avec des amis, enfin bon, voilà. Puis les années passent, entre-temps, je fais un petit Erasmus en Espagne, je finis mes études, et en fait, je change d'école. Je vais dans une école de commerce à Strasbourg. En M2, en fait, j'avais la possibilité de faire une alternance. Juste avant cette alternance, j'étais en stage dans une agence de com, une agence web plus exactement. Et en fait, quand j'arrive dans cette agence web, je deviens très très amie avec un collègue à moi. On accroche très très vite. Et on s'entend très bien sur plein de sujets. On devient vite très proche. Et en fait, on n'est plus collègues, on est amis, quoi. Donc, on a plein de passions en commun, dont ce film et beaucoup de films de Nolan. On adore Hans Zimmer, on adore la photo, on adore les voyages, enfin. Moi, j'avais plus voyagé que lui, mais lui, il rêvait de voyager et les destinations qu'on visait étaient à peu près les mêmes. À ce moment-là, mon alternance, elle se passe bien, voilà. Hein. Je resitue, je suis en M2, c'est une année assez intense parce que je suis en alternance. En Master 2, en école de commerce, c'est une assez bonne école. À côté de l'alternance, on avait nos semestres, on avait aussi notre mémoire rédigée. C'était une année vraiment, mais...
Tes semaines étaient hardcore, quoi. C'était hyper
très,
intense.
Très, très intense. C'était très intense. Et moi, je savais très bien qu'en commençant cette année, ça allait être une année très, très difficile. Mais c'était la dernière année d'études de ma vie, certainement. Ou du moins avant longtemps. Il fallait tout donner pour être ensuite tranquille, avoir un beau diplôme et ensuite pouvoir se lancer... sur le marché, quoi. Et je me suis dit, je fais une croix sur tous mes loisirs, en fait. Enfin, sauf le cinéma, parce que bon... Mais toutes les sorties, parce qu'avant, j'aimais beaucoup sortir. Je sortais tous les week-ends, plusieurs fois. Donc, je me suis pris un abonnement à l'UGC, et puis j'allais tout le temps au cinéma. C'était mon nouveau plaisir, c'était ça, quoi. Et en fait, j'ai eu un mini-petit problème de santé qui n'était pas grave, mais qui était très douloureux, parce que j'ai dû être opérée 2 fois en l'espace d'un mois. Toujours ce pote, hein. Il s'appelle Vincent, hein. On est toujours copains aujourd'hui. Et en fait, Vincent, il était toujours là pour moi, et au moment où j'étais pas bien du tout à cause de cette opération, il était venu me voir, me rendre visite, enfin, il était à l'écoute, on s'écrivait, enfin voilà. Et en fait, si tu veux, peu de temps avant, on s'était dit qu'on allait partir en Islande, en vacances. Et enfin, c'est parti comme ça. On s'est monté un truc dans la tête. On s'est dit, allez, viens, on va en Islande. Et pour resituer, mon opération avait eu lieu en octobre. Ouais, c'était octobre, septembre-octobre, octobre-novembre. Et on partait en février.
Ouais, tout était déjà calé.
Ouais, tout était calé.
Il n'y avait pas de complications possibles qui pouvaient éventuellement retarder ça ?
Alors, peut-être une question de cicatrisation. Et en fait, entre-temps, c'était toujours... J'avais des rendez-vous justement avec mon médecin et c'était toujours le moment fatidique, le rendez-vous. Du coup, après, on s'appelait, je lui disais « Non, c'est bon !» et tout.
Le soulagement.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'était une cicatrisation assez compliquée. Et le médecin, au tout dernier rendez-vous, mais vraiment, ça devait être 2 semaines avant le voyage, il m'a dit « C'est bon, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, vous pourrez aller dans les thermes, vous pourrez faire les bains chauds. » Vous pourrez être assise pendant des heures dans la voiture, parce que c'est ça l'Islande, hein. C'est surtout en hiver, hein. C'est pas du bivouac, c'est ni de la rando.
Tu t'es gravement affaibli, moi je respecte ta discrétion là-dessus, t'es pas obligé d'entrer dans les détails, mais ça t'affaiblissait vraiment grandement, tu pouvais pas entreprendre finalement une grande exploration
Non, alors...
Tant que tu n'étais pas remise à 100%.
Ouais, non, c'était impossible parce que si tu veux, j'avais tellement mal que j'étais couchée, très beaucoup couchée en fait. Je pouvais pas faire un mouvement et surtout, en fait, à ce moment-là, j'avais tellement mal que je prenais de forts antidouleurs parce que sinon je tenais pas quoi. Et je dormais beaucoup, j'ai perdu beaucoup de poids. Tu sais, c'est un cercle vicieux. Tu prends des antidouleurs, ça te fait dormir. Donc tu manges plus beaucoup, donc en fait t'as plus de force. En l'espace d'un mois, j'ai eu 2 anesthésies générales parce que la première opération a été faite d'urgence et la deuxième plutôt que prévu, enfin voilà. Et heureusement, tout s'est bien passé parce que j'ai été bien suivie et que voilà, enfin, je me suis bien reposée, j'ai pas forcé, donc tu vois, c'est ce qui...
Aujourd'hui, il faut rassurer tout le monde et tu vas bien depuis.
Oui, je vais très bien depuis. J'ai une belle cicatrice, mais je vais très très bien.
Alors c'est l'essentiel, ouais. On t'a rafistolé,
tout voilà. Va bien. Ouais, non, franchement, j'ai pas à me plaindre, y a aucun problème. Mais en tout cas, sur le moment, c'était très très dur et vraiment, je te dis, ça plus l'année difficile que j'étais en train de passer à l'école... Oh, wow,
il y a de quoi vriller psychologiquement, je comprends. Mais ouais. On va en parler justement de l'aspect psychologique un peu plus tard. Vous décidez d'entreprendre ce voyage-là en Islande. Déjà, juste l'Islande, pourquoi ? Rapidement ?
En fait, c'était un rêve. Qui n'a jamais rêvé d'aller en Islande au final, tu
ah
vois ?
Oui, je confirme, oui.
C'était un rêve. En fait, lui, il se lançait dans la photo aussi. Ça, c'est un détail important parce que c'est ce qui a fait que... Alors, il se lançait dans la photo, mais surtout la photo, des photos d'étoiles, tu vois. Et du coup, il rêvait de photographier des aurores boréales. Donc, meilleure saison pour aller voir des aurores boréales en Islande, c'est l'hiver. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va y aller en février. Puis aussi parce que, en février, c'est mon anniversaire.
Ah, d'accord, tout simplement.
Donc, ce qui nous a poussé aussi, c'est de voir que les billets de chez nous, donc de Bâle, jusqu'à Keflavik, hein, était à seulement, je crois que c'était 140 euros.
Non,
c'est rien. Aller-retour. Aller-retour.
Mais c'est génial.
C'est ça.
Toi, je garde tout de suite ton contact. Tu vas me faire, tu vas me conseiller 2-3 endroits, 2-3 circuits à faire.
Avec plaisir.
Je garde le contact de Claire juste là, comme ça, absolument. Et voilà, hop. Et donc, sinon, part du principe, hein, on va dire que je ne connais absolument pas l'endroit, je ne connais rien, et les auditrices et les auditeurs non plus. Ce serait bien que tu me décrives. Là, ce voyage, vous partez déjà pour combien de temps ?
Alors, on est parti une semaine, pile poil. Déjà, le vol était très tôt le matin. Donc, si tu veux, Bâle, c'est à peu près à 1h30 de Strasbourg. On y a un grand aéroport là-bas.
Donc, en Suisse.
Oui, exactement. Nous, en tant qu'Alsaciens, on est habitués en fait, à prendre des vols de Bâle.
Et vous étiez en mode... backpacking, comme ouais. On dit. Désolé pour les anglicismes, pour mes parents qui écoutent. J'ai dû perdre encore depuis le début. Moi-même, j'aime pas, d'ailleurs. Alors, j'ai dit spot, c'est endroit. Ouais. Hein, et j'ai dit hypé, ça veut dire être emballé. Voilà. Parce que, non, mais en vrai, je suis tellement défenseur de la langue française qu'il faut que j'arrête aussi.
Ouais, c'est bien.
Et donc, et ça y est, donc en mode backpacking, en gros, en mode sac à dos.
Voilà, quoi. C'est ça.
Est-ce que c'était vraiment dans cet état d'esprit-là que tu es parti ?
Ouais, ouais. On est parti en mode backpacking. Par contre, tu vois, c'est... Comme je te disais avant, bon, je ne suis pas allée dans le détail. En hiver, en Islande, tu ne peux pas faire de randonnée, trop de randonnée. Et surtout, tu ne peux pas rentrer dans les terres en voiture ou à pied. Ils ferment les routes intérieures. Donc, tu as une seule route hein, qui fait le tour de l'île. qui est ouverte.
C'est ce que j'allais te dire, c'est vraiment réglementaire.
Très,
quoi.
Très
c'est
réglementaire.
Qui, comme ça.
Et c'est très contrôlé, hein, c'est très surveillé, donc tu fais pas le malin, quoi, tu vois. De un, pour ta sécurité, parce que ça peut être dangereux de rouler sur de la glace, de rouler dans des terres un peu boueuses, marécageuses, enfin bon. Et de deux, parce que la police là-bas, bah, elle est là, elle est présente, quoi. Donc même s'ils sont sympas, une amende, ça fait toujours mal, surtout dans ces pays-là où tout coûte déjà très cher.
Vous aviez vraiment préparé votre circuit ?
Ouais, ouais.
Où est-ce que vous avez atterri à Reykjavik, je suppose ?
Non, alors en fait, c'est Keflavik, donc c'est une petite ville à côté, hein. Mais il y a juste l'aéroport là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est vraiment... Là-bas, tu es obligé d'avoir une voiture. Donc, on a loué un 4x4, hein, parce qu'il n'y a que ça là-bas. De toute façon, tu es obligé. Hein. Tu es obligé, surtout en hiver, avec le vent et la glace et la neige. Donc, surtout pour le vent, parce que tu as des bourrasques à, je sais pas, entre 100 et 150 km/h qui t'arrachent une porte de voiture. Donc, t'as intérêt à éviter la Twingo, quoi.
Ah ouais, c'est clair. La Twingo, elle finira tatinée, là.
En fait, nous, ce qui est bien, c'est que Vincent, c'était quelqu'un de... Enfin, ça l'est toujours, de très, très sérieux. Et on avait fait des recherches, mais tellement approfondies, quoi. Mais le truc, bon, en même temps, on attendait tellement ce voyage qu'on l'a trop bien préparé. On s'était fait 1000 Excel, des budgets, la bouffe, machin... qu'est-ce qu'on prend dans nos valises, machin. Et lui, il avait pris tout son pack photographe de pro. Enfin bon, c'était excellent. Marrant. On avait vraiment fait plein. Je me souviens, c'était un drive. C'était vraiment le drive. Il s'appelait Islande. Islande 2017. Et c'était.
Celui qui fait plaisir. Tout, rien qu'avec le nom.
Mais je crois qu'on l'a encore. Et il y a des fois bien. Où je le survole et il me semble qu'on l'a encore. Et du coup, ça fait trop plaisir de le revoir, quoi. Tu vois, ça fait partie des souvenirs au final parce qu'on a tellement préparé ce voyage.
C'est pas le moment d'être prudent.
Case, si je perds connaissance, prends le manche.
Tars, prépare-toi à activer le mécanisme d'amarrage. Endurance commence à chauffer.
6 mètres devant.
Il me faut 3 degrés tribord, Cooper.
3 mètres devant.
Cooper, le champ aligné.
Séquence rotation.
Et justement, qu'est-ce qu'on va voir en Islande ? Je me pose toujours cette question. Quels sont les endroits à visiter, les lieux incontournables ? Comment ça se passe la bouffe ? Comment ça se passe le... Enfin bref, qu'est-ce qui t'a globalement nourri lors de cette semaine de voyage ?
Alors, pour au niveau de la bouffe, nous on allait dans des supermarchés. Parce que c'était le moins cher, en fait. Pour nous, voilà, lui, bon, il était déjà salarié. Moi,
c'est marrant, j'ai dit nourri, t'as dit bouffe.
Oui.
Mais c'est dans tous les sens du terme. Hein.
non,
c'est
compris.
Dans tous les sens du terme.
J'ai compris, mais je commence par le plus simple. Et peut-être le moins intéressant aussi, parce que bon... On est passé par des supermarchés. On a fait un gros stock dans un supermarché au tout début en arrivant. Et en fait, le soir, c'est assez bizarre parce qu'on était tellement émerveillés parce qu'on voyait qu'on n'avait pas faim. Mais vraiment, je rigole pas. C'était, on n'avait pas faim, quoi. Le matin, on avait hâte de partir, on se levait tôt. On prenait pas de petit-déj. Ou alors, là-bas, c'est pas l'auberge de jeunesse que tu as connue quand t'as fait ton interrail, quoi. C'est un autre monde, en fait. C'est des auberges de jeunesse où t'as ton jacuzzi dehors. C'est des gens, mais adorables, enfin... En fait, t'as plus l'impression d'être dans une maison d'hôte à chaque fois, même quand c'est une auberge jeunesse.
Dortoir.
Ouais. Et en fait, non, justement, on a eu une fois un dortoir. Sur toute la semaine, on a eu une fois un dortoir. Sinon, c'était tout le temps des chambres privées, tu vois. Et c'est un luxe de dingue parce qu'au final, le prix était pas beaucoup plus élevé et c'était hyper appréciable. On avait souvent le petit-déj qui était inclus. À côté de ça, en hiver, c'est pas très fréquenté l'Islande. Hein. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde.
C'est pour ça. C'est encore mieux, justement, pour visiter, quitte à se taper le froid.
Non, mais complètement.
Et qu'est-ce qu'on y découvre, alors ? Qu'est-ce que tu as pu y découvrir ?
C'est hyper cliché de dire ça, mais quand tu arrives en Islande, tu vis déjà quelque chose d'unique, tu vois. C'est... Dans l'air, déjà, il se passe quelque chose. Tu sens que c'est pur, c'est très, très pur. Nous, le premier truc qu'on a fait en plus, c'est le Blue Lagoon. Donc, on a direct fait des sources chaudes.
Oui, trop bien.
On s'est dit, bon, on a passé 4 heures en avion, bon, c'est pas énorme. Mais moi, avec mon opération un peu fraîche, On s'est dit, pour se détendre, on va commencer par le Blue Lagoon et ça va être nickel. Et putain, on était trop bien.
Rien que le nom, ça sonne comme déjà quelque chose de super soft.
Ouais, ouais.
Ah, oui. Où t'es bien.
L'eau bleue, naturelle. Bon, c'était hyper aménagé pour le coup, parce que t'as plein de sources naturelles aussi, hein, que tu peux trouver dans des, bon, des terrains ou des champs. Enfin, voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui se baignaient comme ça dans la nature. Moi, tu t'attends à rien, en fait, quand tu vas en Islande. Autant tu fais tes recherches, tu vois les blogs, machin, tu vois les photos, tu dis waouh, 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 ça va être génial. Mais en fait, à partir du moment où tu le vis, c'est autre chose, quoi. C'est différent, ça prend une autre dimension. L'Islande, c'est des villes, des rues, des routes, toute la grande route du coup qui fait tout le tour, qui est vide, il n'y a personne. C'est des villages trop mignons, où il n'y a pas beaucoup de gens, beaucoup de pêcheurs. Tu trouvais un petit café, des fois on se faisait une balade, on partait le matin, à mi-chemin on trouvait un petit chalet, c'était un café un peu abandonné, mais quand même trop stylé, avec des gens trop sympas. Et des pâtisseries trop trop bonnes. C'était des champs avec des poneys, parce qu'ils adorent les poneys là-bas. Des champs avec plein de poneys qui venaient de faire des petites papouilles. Des fermes abandonnées, des églises, enfin. En fait, tu roules et en même temps, t'en prends plein les yeux. Donc, c'est toujours un plaisir, tu vois. Que tu sois à pied ou en voiture. Ou...
Et pour conclure sur toute cette page concernant ton voyage en Islande, il y a un endroit que tu m'évoquais quand on préparait l'émission avant l'enregistrement, qui t'a chamboulé, en fait. Quand tu es tombé sur cet endroit, tu as halluciné d'apprendre, finalement, l'histoire qu'il y avait autour de cet endroit,
c'est
de
ça.
Ce lieu.
Exactement. En fait, au cours du voyage, il faut savoir quand on était en 2017, selon les locaux, c'était l'hiver le plus chaud que l'Islande ait connu depuis toujours, en fait. Hein.
Prends ça, le climato-sceptique.
Ouais, complètement. Et en fait, on avait booké une excursion dans des caves de glace. Sauf qu'on nous écrit un mail la veille de cette excursion et on nous dit, voilà, on est désolé, mais ça pourra pas se faire parce que l'hiver étant très chaud, en fait, hein, on était en février, mais il faisait 6 degrés. En Islande, c'est énorme. L'hiver étant très chaud, les caves de glace sont inondées. Vous pourrez pas faire cette excursion, cette sortie. En revanche, si vous voulez, on vous propose autre chose, c'est une randonnée sur un glacier. Ou autre chose, bref. Et on se dit, bon, c'était le même prix à peu près, et donc on s'est dit, allez, on va faire ça, ça peut être marrant. On avait un guide, hein, ils nous emmènent avec leur minibus. En fait, c'était tout un centre touristique ciblé excursion dans les grottes de glace ou sur les glaciers, bon, tout ce qui touche à la glace en général, quoi. C'est le truc qui était un petit peu plus physique, on va dire. On enfile des crampons. Donc vraiment les crampons en acier, quoi. Et on a des mousquetons, machin, enfin bon, bref, tout le beat. Et on avait tous eu un pic à glace, donc c'était marrant. Et moi je m'attendais, enfin je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible, parce que du coup on s'est pas renseigné sur ce truc. Et moi je me suis dit, merde, on va escalader un truc, c'est pas possible, tu vois. Et on avance, et on était tout un bus de jeunes, c'était trop bien. Il y avait des Espagnols, il y avait des Anglais, il y avait toutes les nationalités, c'était trop cool. On était un petit groupe de 10, je dirais. On était en train de faire une randonnée sur un glacier. Je vais essayer de prononcer son nom, mais ne m'en voulez pas. C'était le Snæfellsjökull. Ça, c'est un des plus grands glaciers d'Islande. Où, voilà, il y en a plein. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce glacier. Si ce n'est que, à un moment dans la rando, on fait une petite pause parce que c'était quand même assez intense au final. Tu sais, quand tu n'as jamais fait de crampons ou de pique à glace, machin, déjà tu flippes parce que t'as l'impression que tu vas tomber dans un ravin de glace à chaque fois et que tu te foutu pour ta vie.
On a l'impression que tu nous racontes Cliffhanger, là.
Ouais, non.
Mais comment vous étiez harnaché.
Et en fait, on n'était pas harnaché tout le temps, c'est bien là où c'était stressant. On était harnaché que quand il fallait, genre, grimper, tu vois. Parce que les crampons, quand t'es pas habitué, il faut bien les utiliser, en fait. Il faut vraiment les planter comme il faut. Et à un moment, on fait une pause et donc on avait un guide qui était trop trop cool. Il nous dit, bon, bah voilà, ici, il s'est passé plein de choses. Et en fait, il nous dit, ouais, ça vous parle un peu cet endroit. Et en fait, moi, mais vraiment, sans réfléchir, je dis Interstellar, tu vois. Parce que je regarde autour de moi et vraiment, je dis Interstellar.
La vue.
Et il me pointe du doigt et il fait exact. Et il me dit, c'est ici que ça a été tourné, qu'a été tourné Interstellar. Et là, génial. J'avais de nouveau envie de chialer pour la énième fois de ce voyage. Je me suis dit, mais putain, c'est pas possible, là, c'est un rêve. Et là, il nous dit qu'Interstellar était tourné ici, que Nolan avait loué. En fait, c'est marrant parce qu'il a loué le lieu de tournage, mais aussi toute la compagnie touristique pendant 2 mois. Il les a loués, donc il les a payés.
Bien sûr, parce qu'ils connaissent de fond en comble les lieux.
C'est ça, exactement. Et surtout, il leur a payé un salaire parce qu'ils n'allaient pas travailler pendant tout ce temps, tout le tournage, tu vois, vu que tout le lieu était loué. Et le lieu devait rester quand même assez intact, donc éviter quand même qu'il y ait trop de touristes qui abîment le sol, enfin bon. Et bon, voilà, enfin, en plus, je me disais, ce type a rencontré Nolan, il a rencontré Matthew McConaughey, il a rencontré tout le monde. J'étais là, mais en plus, il a rencontré tout le monde. Et donc là, derrière, il nous dit, bon, voilà, il y a eu Interstellar, il y a eu Game of Thrones, il y a eu La vie rêvée de Walter Mitty, enfin bon, il y a plein de films qui ont été tournés en Islande au final, mais sur ce lieu, ces films-là, et d'autres, hein, dont je me souviens pas, il y a eu Alien aussi, il y a Batman, Begins, qui a été tourné aussi en Islande, bon, voilà.
Excellent.
Ouais.
La vue que tu avais et le fait d'avoir cette information que Nolan a tourné à cet endroit, ça correspondait pour bien ancrer dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. C'était par rapport à quelle scène, en fait, ce lieu-là, ce glacier, correspondait à quel moment du film précisément ?
En fait, c'est là où a été tournée toute la scène, toute la séquence sur la planète Man, donc la planète de Matt Damon.
J'étais sûr que tu allais me parler de cet endroit, oui. Ouais. Là où McConaughey, Cooper dans le film, et Matt Damon se battent.
C'est ça, exactement. Fait. Et en fait, je ne sais pas si tu te souviens, hein, mais tu as comme des vagues de glace dans sur cette planète. Et c'est exactement comme ça dans la réalité.
C'est magnifique, en tout cas. Quelle chance tu as eu de pouvoir découvrir ce spot.
Et surtout qu'on a découvert ce spot en fin de journée. Donc on avait un beau coucher de soleil. C'était un jour où il y avait un ciel bleu magnifique. Il a fait tellement beau, et donc vraiment, bon, tout s'y prêtait, c'était un rêve, quoi. C'était un des plus beaux jours de ma vie, encore aujourd'hui.
C'était le dernier jour, ça, en plus.
Non, c'était pas le dernier jour. Le dernier jour, c'était les aurores boréales. Ça, c'était après, au milieu du voyage.
Non, c'est canon.
Brand, Doyle, remontez tout de suite dans le Ranger.
On ne repart pas sans les données de Miller.
Revenez tout de suite. On n'a pas le temps.
Il y a la deuxième vague qui arrive. On est au creux de la houle.
Je l'ai. Ça y est, je l'ai.
Putain, maniez-vous de remonter dans le Ranger. Brand, remontez dans le Ranger.
Non, Cooper, allez-y. Allez-y, j'y arriverai pas. Allez-y.
Kate, cours la chercher.
Allez-vous-en.
Debout. Allez, Brand.
Vite, vite. Vite!
Je vais pas m'en sortir!
Mais si, vous verrez. Allez, courage! C'est bon, Chase l'a dégagé, il l'a dégagé, reviens tout de suite, Doyle!
On va parler du coup de ton rapport à ce film. Deux scènes qui t'ont profondément marqué dans le film. Deux scènes qui, pour toi, à chaque fois, ont une résonance particulière, produisent un effet particulier sur toi. Est-ce que tu pourrais nous en citer ?
Moi, la première scène vraiment qui me marque à chaque fois et qui me met dans un état de stress, on va dire, voilà, c'est la scène sur la planète Miller, où ils se rendent vite compte qu'une heure équivaut à 7 ans sur Terre. Et en fait, c'est surtout à ce moment-là que Cooper comprend plein de choses et se rend compte que tout ce temps qu'il est en train de passer à attendre que les moteurs de sa navette se refroidissent et se vident...
Soit détrempés.
Se détrempent, en fait, au final. Tout le temps qu'il passe à attendre, c'est le temps qu'il perd à voir sa fille, quoi. À pas voir sa fille, plutôt. Et il y a beaucoup d'émotions, je trouve, dans cette scène-là, parce qu'il est énervé, il est triste... Et en même temps, c'est la faute de personne. Et en même temps, on vient de perdre un personnage. Il y a un de ses acolytes qui meurt. Donc, c'est dur.
Doyle dans le film.
Exactement.
On spoil un peu, hein, mais vous connaissez l'émission.
Voilà.
On est un peu obligés.
Cette scène, en fait, elle me marque parce que c'est aussi à ce moment-là qu'il va essayer de rattraper le temps perdu en regardant tous les enregistrements et les messages qu'il a reçus de sa famille. Quoi. C'est à ce moment-là aussi qu'on voit que sa fille, Murphy, a grandi et qu'il la découvre. Enfin... Tout cet enchaînement-là est assez fort dans le film. Je trouve que ça marque une sacrée transition parce que c'est le moment où tout le monde réalise ce qui se passe vraiment.
Ils se rendent compte qu'avec ce temps perdu sur la planète Miller, donc il y a une vingtaine d'années écoulées, et son premier réflexe, en effet, c'est de se rendre vers ses vidéos et de découvrir sa fille qui a le même âge que lui quand il est parti.
C'est ça, parce qu'en plus, il s'en veut, il culpabilise, parce qu'on s'en souvient bien quand il quitte sa fille... Il lui dit bien qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et à mon avis, là, il prend sa petite claque et c'est sa punition au final, hein, parce que et il a voulu partir à l'aventure en faisant une confiance aveugle à, au docteur Brand, mais au final...
Donc Brand perd.
Brand perd, Michael Caine. C'est ça. Et au final, il en souffre aussi de cette situation. Et les deux en souffrent, mais à deux bouts différents de l'univers, au final, quoi. C'est ça qui est fort.
You son of a bitch. I never made one of these when you were still responding because I was so mad at you for leaving. And then when you went quiet, it seemed like I should live with that decision, and I have. But today's my birthday. And it's a special one because you told me you once told me that when you came back, we might be the same age. And today I'm the age you were when you left. So it'd be a real good time for you to come back.
Après, moi, je voulais parler aussi du Tesseract que beaucoup de gens ont critiqué. Donc pour recontextualiser, Cooper plonge dans le fameux trou noir de Gargantua. Bon, il y a pas mal de théories qui disent que c'est à ce moment-là que le film se termine, hein, pour certains, parce que c'est à ce moment-là que Cooper meurt. Et puis il y en a d'autres qui veulent croire à ce qui se passe, à ce qu'ils voient. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on comprend vraiment tout le film, je pense, hein. Parce que dans ce Tesseract, on fait le lien avec une des premières scènes où on a le fameux fantôme de Murphy, hein, qui tape dans sa bibliothèque et qui fait tomber des livres. On a aussi les fameuses lignes au sol créées par la gravité et par on ne sait trop qui sont en fait créées par Matthew McConaughey parce qu'il essaie de communiquer en binaire, je crois. Hein. C'est du Morse ou du binaire ?
C'est ça, du Morse.
Ouais, du Morse. Il essaie de communiquer avec sa fille parce qu'on le rappelle, à son départ, il lui a donné une montre. Comme le temps n'est pas le même sur Terre et sur les planètes qu'ils sont en train de découvrir, c'est ce qu'il disait à sa fille, hein, pour lui faire un peu comprendre justement la physique en général et l'idée de la distorsion de l'espace-temps et de la relativité, hein. Il lui a donné justement une montre qu'elle a gardée, elle, sur Terre, et lui, il a gardé sa montre à lui pour son voyage. Et effectivement, il voit que cette montre est toujours posée sur sa bibliothèque, et c'est en jouant avec les aiguilles qu'il va créer ses lignes au sol. Donc finalement, la boucle est bouclée.
Et juste pour préciser, le Tesseract, en fait, c'est aussi la zone tridimensionnelle dans laquelle se retrouve Cooper.
Oui, exactement, ouais.
Donc à l'arrière de cette bibliothèque en train de pousser les livres.
C'est ça, exactement. Et bon, je trouve que c'est une scène très forte parce que bon, y a tout le dénouement, ensuite on comprend plein de choses, ensuite on a ce parallèle entre le moment sur Terre et le moment dans le Tesseract, parce que le Tesseract, on n'arrive pas trop à le situer, c'est un peu dans Gargantua, et en même temps, on ne sait pas trop où c'est, mais bon, en tout cas, c'est pas du tout sur Terre, quoi. Et au moment où elle déchiffre tout, ça fait l'effet d'un Rubik's Cube qui est résolu, quoi. Tu vois, c'est, il y a tout qui s'effondre.
Comme d'habitude avec Nolan.
Voilà, ouais. C'est ça. Tout, c'est Eureka, au final, tu vois. On a trouvé la solution. Gros trou noir, et il se réveille après. Bon, à la fin, moi, je suis pas hyper fan de la fin. Hein. Mais je trouve que la fin est peut-être un peu bâclée. Mais c'est pas du tout le moment que je préfère quand je...
En plus, il n'y a pas que ça de négatif qui s'est pris dans la tronche. C'est devenu même une espèce de blague un peu récurrente. L'amour résout tout, tu sais.
C'est ça. Bah, c'est Amelia qui dit ça, donc la fille de Brandt, hein, le personnage de Anna Tawai, qui parle d'amour.
Qui dit l'amour est une invention à nous, il est observable du Tout-Puissant, il a forcément un sens. Mm. Donc en gros, là, ça résout tout, quoi.
C'est ça, elle était tellement à fond pour la planète Edmond, et en fait, quand ils se rendent compte qu'elle était amoureuse de lui, et qu'elle, son objectif, c'était de le rejoindre, est-ce qu'au final, elle n'avait pas eu raison dès le début ? Est-ce qu'elle n'aurait pas dû suivre son instinct ? Bon, enfin, si, on le sait à la fin, au final. Hein, c'est l'happy ending du film. Hein, c'est elle qui, au final, prend un chemin différent, qui rejoint la planète Edmund, même si lui est décédé. Hein, elle réalise que l'air est respirable pour les humains, que la planète est colonisable, donc elle va commencer à vraiment s'installer. Donc.
Et bon. Donc Cooper va la rejoindre sur le... parmi les derniers plans.
C'est ça, exactement. Donc, il y a quand même un moment, je trouve, qui aurait pu être zappé, où une station sur la station Cooper...
Qui porte le nom, en fait, de sa fille.
Exactement, qui porte le nom de sa fille. Bon, voilà, la scène où on la voit avec tous ses enfants et petits-enfants... un peu inutile. On a compris qu'elle allait être plus vieille que lui, ça, on l'a bien compris depuis longtemps, hein. C'est pas sincère dans le sens où, à sa place, moi j'aurais aimé passer tellement de temps avec elle, quoi. Et elle l'éjecte. Bon, bah, je te laisse, maintenant je vais voir mes enfants. On vient de passer 2 minutes 30 ensemble. Maintenant, casse-toi, quoi. Bon, bah, c'est pas très réaliste, je trouve. Enfin, j'étais assez déçue. Je trouve que c'était bâclé comme moment.
C'est intéressant d'entendre ton point de vue. C'est vrai que j'avais pas vraiment vu les choses comme ça. Je dis pas qu'elle est parfaite, hein. Je la trouve un peu trop didactique, d'ailleurs, à la fin, un peu trop dans l'explication.
Et
un peu lourde à l'arrivée, mais je la voyais pas non plus comme ça, c'est marrant. Pour revenir un peu au négatif, quand on voit ce film, il y avait des critiques qui revenaient régulièrement en mode c'est de la physique quantique pour les nuls. Je sais que c'est, on est dans la punchline, on est dans la critique de cinéma, faut que ça fasse mouche, faut que ce soit violent, mais ça revenait quand même souvent. Tu réponds quoi face à ce postulat ?
Bah, moi je réponds des choses un peu factuelles, c'est que quand tu recherches et tu te renseignes un peu sur le film, tu vois que Nolan c'est quand même quelqu'un de très assidu, très précis, c'est quelqu'un qui va pas écrire un scénario ou qui va pas imaginer un film à la légère, c'est quelqu'un qui est tellement à fond que, et d'ailleurs c'est le cas, hein, qui va faire appel à des professionnels, hein. Il a fait appel à des physiciens, à des scientifiques, hein, pour écrire son film. Peut-être que c'est de la physique pour les nuls, mais pour moi ça ne l'est pas, parce que je trouve que c'est complexe, et je trouve que c'est des questions qu'on se pose, et c'est des questions qui ne sont pas bêtes du tout. C'est des questions que beaucoup de scientifiques se posent, je pense. Et je trouve que à notre niveau, si voilà, on n'est pas spécialiste, bon, je sais très bien, je vois très bien le genre de gens qui ont lâché ce genre de critiques, hein, mais on n'a pas tous fait l'INSA ou ce genre d'école, on n'est pas tous astrophysiciens. Et en fait, au niveau du grand public, si je puis dire, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça nous permet aussi de nous intéresser à quelque chose qui nous touchait peut-être pas avant. De base, hein, je m'intéresse pas mal à l'univers, j'aime beaucoup, hein. Il y a une forme de mystère qui me plaît, et en même temps, c'est de la science, en fait. Donc, j'aime beaucoup ce paradoxe, en fait. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'aime Interstellar. Et Interstellar me fait aimer encore plus l'univers. Donc, tu vois, c'est toujours un cercle vertueux. Tu vois, ce genre de critique, bon, c'est gratuit, quoi. C'est, au final, ça n'a aucun fond, je trouve, après.
Est-ce que tu fais partie de ces gens qui, pour mieux arriver à comprendre toute l'architecture du film, tu vas creuser des forums, tu vas creuser...
Ouais, ouais.
Des sites de fans, des théories, un peu comme le même travail qu'on a pu faire sur Inception. Est-ce que tu l'as fait aussi sur Interstellar ?
Oui, complètement. Je l'ai fait sur Interstellar. Et d'ailleurs, mon ami Vincent, pour Noël, m'avait offert un magnifique livre sur Interstellar, mais un livre de collection, quoi, ou des secrets de tournage et tout. Et pour la question scientifique, effectivement, parce qu'en plus, moi, qui n'étant pas du tout... une scientifique de base, en fait, parce que je pense que comme beaucoup, hein, quand on était à l'école, on n'a pas trop accroché, voilà, moi c'était pas du tout mon domaine, et avec la maturité, tu comprends plein de choses, et heureusement, Interstellar, je l'ai vu quand j'étais adulte, enfin plus ou moins,
jeune adulte.
Ouais, effectivement, après un film comme ça, t'es obligé, en fait, de... Si vraiment tu as aimé le film, ou même si tu ne l'as pas aimé, mais si tu veux vraiment comprendre quelque chose, si tu veux aller plus loin et approfondir ta pensée, je trouve que c'est important de faire des recherches derrière, tu vois. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, je vais regarder, je ne suis pas trop YouTube, mais par contre, je vais écouter beaucoup de podcasts, je vais lire beaucoup d'articles.
Ok pour allumage moteur principal. H-10.
Papa !
9.
Papa !
8. 7.
Papa !
6. 5. Allumage moteur principal. 4. 3. 2. 1. Mise à feu des boosters et...
son nominaux, début de la manœuvre de roulis.
Je rajouterais deux scènes. Moi, je pensais que tu allais en citer une de ces deux-là, mais la scène tout simplement de déchirement quand Cooper doit aller accomplir cette mission de sa fille, oui. Qui en fait lui fait la tête, lui tourne le dos, ne veut pas lui parler, il l'embarque dans sa camionnette, il est parti, c'est trop tard. Elle hurle son père et lui il est en train de partir avec les larmes aux yeux. Ça, c'est une scène que je trouve plutôt émouvante.
Oui, c'est très fort, elle me fait pleurer à chaque fois.
Et au-delà, une scène qui précède et qui va me revenir, c'est tout simplement la musique qui les suit. Lorsqu'ils suivent, tu sais, ce drone, lorsqu'ils entrent dans le champ, et ça nous fait justement parler de la bande-son, parce que j'adore cette ritournelle qu'on a tout du long du film. Quel mot tu mettrais pour parler de la BO et la définir ?
C'est dur. La BO, elle est unique, en fait. Elle est unique et elle est millimétrée, parce que Hans Zimmer a fait un travail... En fait, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'un jour j'allais regarder une interview et lui, il travaille comme ça. Je crois qu'on lui donne juste une explication du film, mais il lit pas le scénario entier. Et derrière, lui, il va composer la BO et c'est quand même plus souvent, il me semble, hein, Nolan qui s'adapte à ses musiques que l'inverse, tu vois. Déjà, bon, moi, j'admire ce mec, c'est un génie. Et cette BO-là, elle est fascinante et elle te fait voyager, elle te fait vibrer, elle te fait voler, en fait, tu vois. Je trouve que c'est une...
Elle nous transporte.
Ouais, c'est ça, elle transporte et...
Il y a quelque chose de la traversée dans l'univers, oui.
Ouais, complètement. Tu sens, en fait, tu arrives à sentir la dimension spatiale. Dans cette BO, justement, il y a des sonorités qui vont très bien avec l'univers du film. Et après ça, d'ailleurs, après mon voyage en Islande, j'étais allée voir Hans Zimmer en concert, sa première tournée à Paris. Et bon, quand il a fait la partie Interstellar, c'était incroyable, incroyable. En vrai, en live, c'est quelque chose, c'est vraiment... Oh
début d'émission, c'était intéressant, tu disais que tu étais très film indépendant, art et essai, et tu as accroché finalement à l'univers de Nolan, parce qu'il y a une grosse dose d'humanité. En revoyant le film, bien des années après, on est 7 ans après, tu l'as ressenti toi aussi, le fait de placer au centre, au-delà des questions scientifiques, l'humain, notamment par la filiation, la relation père-fille, etc.
Ah oui, complètement. Je trouve qu'à chaque visionnage, on le ressent un peu plus, en fait. On sent que c'est le sujet global, parce que l'idée, c'est quand même de sauver l'humanité d'une extinction proche, et que c'est aussi un sujet plus intime, quelque part, parce que il y a cette séparation et cette relation père-fille.
Que père-fille, d'ailleurs.
Ouais. Que père-fille, la mère, le père-fils, pas trop. Tu sens qu'il y a quand même une grosse distance entre les deux. Hein.
Donc je pense au père Brandt, fille Brandt, et aussi, père Cooper, exactement. Et Murphy Cooper.
Ouais, exactement. Et c'est marrant parce que quand j'y pense, il n'y a pas ce schéma. Ce schéma ne se répète pas dans les films de Nolan. Il y a beaucoup de réalisateurs où, tu vois, il y a un message caché dans l'humain derrière, ou quelque chose de très personnel qui reflète la personnalité ou l'histoire du réalisateur dans un film. Et je trouve que là, tu vois, si tu compares les films de Nolan, il n'y a pas trop ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais...
Non, il n'y a pas de récurrence, en effet, de ce côté-là.
C'est quand même dans Interstellar où c'est assez unique, hein, c'est ce genre de relation. Et effectivement, ouais, c'est un beau parallèle, hein, parce que j'aime beaucoup, hein, quand c'est dans l'humain, quand c'est dans le social, quand c'est dans l'émotion. Et Interstellar, justement, ça rassemble tout, ça rassemble quelque chose de passionnant comme l'univers, quelque chose, un sujet pour lequel on se pose beaucoup de questions, hein, ça nous concerne aussi au final, parce que ça nous pend au nez, hein, en fait, hein, la situation qu'ils sont en train de vivre. Et puis l'humain, ben, ça nous permet d'intégrer aussi le film et de rentrer dedans et d'être plus terre à terre, tu vois, de s'identifier aussi au personnage.
Moi, il y a une interview qui m'avait beaucoup marqué pour la petite histoire. Je ne sais pas si tu l'avais vue à ce moment-là. Elle est dispo sur YouTube, il faudra que je te l'envoie. Mmh. En fait, il y avait Laurent Veil, journaliste Canal+, spécialisé en cinéma, qui interviewait Nolan et Matthew McConaughey. Et c'est assez drôle, c'est pour la première fois qu'ils se sont rencontrés, Matthew McConaughey est allé voir Nolan chez lui, et ils n'ont pas du tout parlé du film.
Ouais.
Ils ont seulement parlé de comment ils voyaient le rôle de père, en fait. Parce que McConaughey a 3 enfants, Christopher Nolan en a 4.
Mm-hmm.
Et ils n'ont fait que parler de ça.
D'accord.
Et c'est seulement une semaine après que Matthew McConaughey... À aucun moment, ils ont parlé de cinéma. C'est assez bizarre.
Ouais, c'est marrant.
Et une semaine après seulement, Matthew McConaughey a reçu le script. Et il était étonné parce qu'il s'est dit, mais moi je pensais qu'il allait me parler d'un film ou quoi, et à aucun moment il en parle.
Oui, oui.
Moi, je t'enverrai ça.
Et je veux bien. Je sais pas si je l'ai déjà vu, si je l'ai vu c'est il y a longtemps, parce que là je m'en souviens pas, mais je sais que chaque. Parce que c'est même pas vraiment. Enfin bon, il y a forcément un casting avant, mais les entretiens qui sont faits après, je sais qu'ils sont toujours très particuliers avec Nolan. Le dernier avec Robert Pattinson pour Tenet était. Particulier aussi, enfin bon, c'est marrant parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très spécial quand même, hein, dans les deux sens.
Pour dire à quel point il place l'humain en fait au centre de la chose, plus que quel mec je vais mettre au milieu.
Exactement.
Des effets spéciaux.
Bah, je pense que c'est un vrai échange, il a envie de sentir une connexion avec ses acteurs, quoi. Donc bon, c'est appréciable pour nous en tant que spectateurs aussi, quoi.
Bon, je vois pas ce qu'on peut rajouter de plus, je pense qu'on a fait un gros tour du film Interstellar. Réalisé donc par Christopher Nolan, qui est dispo sur Netflix, bien sûr. Et si vous avez un souci avec Netflix ou que vous n'êtes pas abonné à Netflix, c'est possible. Hein. Moi, je l'ai regardé sur une autre plateforme qui s'appelle Filmo TV. Voilà, par exemple. Apple TV aussi, YouTube, Canal VOD, et j'en passe. Prépare bien tes notes, Claire, car tu as encore du travail devant toi. 2 recommandations, 2 autres films qui t'ont marqué, que tu aimes et que tu as envie de partager avec nos auditrices et auditeurs. Quelle première recommandation tu peux nous faire, Claire ?
Alors, moi, je vais faire des recommandations. C'est pas forcément mes films préférés, c'est des films que j'adore et qui m'ont beaucoup marqué. Pour Premier Contact, c'est un
excellent
film réalisé
choix.
Par Denis Villeneuve en 2016. Enfin, il est sorti en 2016. Pour rappeler un peu l'histoire du film, hein. C'est un mystérieux vaisseau qui surgit, hein, du fond de l'espace et qui se multiplie, il me semble, en 12 fois sur Terre, 8 ou 12 fois, je ne sais plus. En fait, on a ce phénomène-là qui arrive un peu comme un ouragan ou un tsunami, on ne sait pas d'où ça vient, c'est arrivé d'un coup. Et le monde entier s'affole, évidemment, donc le premier corps qu'on fait intervenir, c'est l'armée, et les militaires vont chercher entre autres, hein, du moins aux États-Unis, une experte en linguistique qui s'appelle Louise Banks, qui est incarnée par Amy Adams.
Amy Adams.
La très très bonne Amy Adams, que j'adore. Et en fait, l'objectif derrière, c'est de communiquer avec ces fameux vaisseaux, parce qu'en fait, à ce moment-là, on ne sait pas du tout de quoi ils sont constitués, enfin... Les militaires le savent déjà parce qu'au final, eux, ils se sont déjà installés, ils avaient déjà installé des campements, bref. Donc, ils vont faire appel à des experts en linguistique pour déceler le secret de leur venue sur Terre. Et de là, il va se créer une relation très spéciale entre ce qu'on appelle les heptapodes, donc c'est les fameux êtres qui habitent ces vaisseaux.
Des espèces d'extraterrestres, en fait.
Qui ressemble à des araignées aussi, un peu. Devine Villeneuve qui adore les araignées. Hein. Enfin, la forme d'araignée et de pieuvre en même temps. Enfin, bon. J'ai choisi ce film parce que...
Amy Adams, déjà, c'est un bon motif. Hein.
Ouais, complètement. C'est déjà Amy Adams, ensuite Denis Villeneuve, que j'adore. Et ensuite, il y a un parallèle avec le film, c'est la communication et c'est le futur. En fait, je ne veux pas spoiler le film. J'imagine qu'il y a plein de gens qui l'ont vu. Et sinon, je vous conseille d'arrêter maintenant le podcast.
Prenez le film suivant, juste après.
Ouais. Le fond du film, c'est que... Enfin, du moins, la fin, hein, le dénouement, c'est que ces heptapodes sont arrivés sur Terre pour livrer un outil, ou du moins une arme, aux humains. Et cet outil, c'est leur langue. Parce que dans je ne sais combien d'années, ils vont, si je me souviens bien, c'est ça, hein, tu peux me contredire si je me trompe.
Je l'ai vu à sa sortie seulement, j'ai pas eu le plaisir de le revoir.
Non, mais je suis quasiment sûre de ce que j'avance, donc...
je te fais confiance. Hein.
En fait, à la fin, là, c'est ça, hein, c'est le dénouement, c'est qu'il lui offre cette arme, c'est la langue, en fait, c'est leur langue à eux, parce que pendant tout le film... Elle va communiquer avec eux, elle va leur apprendre des mots et elle va déchiffrer leur alphabet, qui est assez spécial, qui n'a rien à voir avec ce que nous on fait, hein. C'est des genres de formes d'encre. C'est très joli en plus, hein. Le film est magnifique, il est très très beau.
Vraiment lettre par lettre, quoi.
Ouais, exactement, c'est lettre par lettre. Ouais.
Elle prend un calepin et vraiment elle note au fur et à mesure. C'est un film vraiment passionnant. Premier Contact, donc, qui date de 2016, réalisé par Denis Villeneuve, est disponible sur Netflix. Deuxième recommandation, Claire, s'il te plaît.
Alors, la deuxième recommandation qui a été très, très, très critiquée, c'est Ad Astra, réalisé par James Gray, sorti en 2019. Je l'ai vu au cinéma, ça a été une belle claque, j'adore James Gray. Je sais que c'est un film qui n'y a pas eu énormément d'entrée. Hein,
Non, pas tellement.
Ouais, pas tellement.
Pour recontextualiser vite fait, c'était l'année du grand retour de Brad Pitt dans deux films, donc le dernier de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood et Ad Astra.
Exactement, Brad Pitt qui joue le personnage principal hein, dans Ad Astra aussi. Un astronaute, hein, Roy McBride, qui part à l'aventure hein, jusqu'aux confins du système solaire. Et il recherche son père disparu lui-même. Ancien astronaute, qui est incarné par Tommy Lee Jones. Un acteur qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, donc c'était une bonne surprise, parce que je l'aime beaucoup. Tu vois, c'est le parallèle que je faisais tout à l'heure. C'est que James Gray, pour le coup, il y a vraiment une ligne de conduite dans tous ses films. Il y a vraiment un message derrière. C'est la relation père-fils. C'est la recherche du père. Il y a toujours une quête derrière. Il y a la quête du bonheur, il y a la quête d'une réponse. Et dans Ad Astra, tu le sens, comme d'habitude, de manière très forte. Et donc, ce fameux Roy McBride, donc Brad Pitt, il va à la recherche de son père qui a disparu. Et son père voulait, à la base, résoudre un mystère qui menaçait la survie de notre planète.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film pour que tu souhaites le recommander aujourd'hui ?
Alors, le film, je l'avais vu au cinéma. J'ai vécu un très beau moment parce que je le trouvais émotionnellement très, très fort. Brad Pitt... Moi, il m'a transporté, quoi. En fait, Brad Pitt, je l'aime pas tant dans ses premiers rôles, tandis que dans ses rôles récents, je le trouve incroyable. Et dans Ad Astra, je le trouve très, très naturel au final, tu vois. Il se livre vachement au spectateur, il laisse vivre ses émotions. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de cinéma, en fait, et la musique est très belle, et le casting est très beau, et bon, c'est toujours pareil, c'est un tout. Et en fait, je pensais qu'en sortant du cinéma, j'allais l'oublier, mais je ne l'ai pas oublié, ce film. Déjà, de base, j'aime beaucoup James Gray, et puis c'est un univers... en fait, ça nous touche tous, parce qu'on est tous à la recherche de quelque chose, on recherche tous une réponse, et puis j'aime beaucoup les relations, en fait, familiales. En fait, moi, dans un film, ce qui va me toucher, c'est pas du tout les relations amoureuses, mais c'est les relations familiales. C'est mère-fille, père-fille, entre frères et sœurs. C'est vraiment ça qui va me toucher. Et dans ce film-là, il y a quelque chose qui est très fort entre le père et le fils, et qui est très très dur hein, à la fin aussi, hein, parce qu'au final, lui, il va sacrifier la vie de son père.
Bah, tu nous le spoil, là.
Tu l'as pas vu ?
Si, je l'ai vu, mais tu nous le spoil. Je sais que tu spoil parce que je l'ai vu, justement. C'est dans le dernier tiers du film où il y a la rencontre avec le père, il est obligé de le lâcher pour...
C'est ça, exactement.
D'ailleurs, il avait été pas mal critiqué parce qu'on trouvait qu'il s'en sortait facilement pour regagner la Terre dans le dernier tiers. Il utilise ses petits propulseurs et... Mais ne spoil pas.
Ok, je spoil plus. Mais c'est pour ça que je disais en introduction qu'il a été très critiqué, et moi, je vous emmerde.
Non, mais il est... Après, chacun son avis. Moi, je l'ai trouvé très fort dans ces deux premiers tiers, et j'ai moins aimé le tiers, où comme toi, j'étais tellement heureux de voir Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, c'est notre enfance, c'est Men in Black. C'est un autre film, d'ailleurs, de Space Opera, c'est Space Cowboys, par exemple. Mais, je sais pas, le dernier tiers, j'ai eu beaucoup plus de mal. J'ai aimé tout le reste. Il y a des passages sublimes où il est sur la planète Mars, où il doit rejoindre un complexe particulier. Et il y a des jeux de lumière comme ça, fluorescents, qui clignotent. Et la présence de Brad Pitt au milieu, c'est sublime, quoi.
La scène où il lit une lettre à son père, où il essaie de communiquer avec lui, et c'est très, très fort parce que lui, Je sais pas si tu te souviens de cette scène, mais il s'effondre, Brad Pitt, en fait, au final. Et c'est fort comme scène, c'est que c'est un moment très très fort parce qu'il essaye plusieurs fois et jusqu'au moment où il craque et surtout derrière il est évincé de la mission parce qu'il s'est trop
il est trop impliqué,
il y a un lien qui est trop fort, il faut que ce soit une personne neutre qui réalise cette mission, et ce qui est compréhensible quelque part, et en même temps c'est inhumain. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce film et je le recommande fortement.
Ça s'appelle Ad Astra. Le film est disponible sur Apple TV, sur Google Play, Orange, j'en passe, et aussi en streaming sur Canal+, dans leur replay. Bah, c'est déjà la fin. Donc merci beaucoup Claire d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir.
Bah, merci à toi. À bientôt, bonne soirée.
Non, l'épisode n'est pas encore terminé. On n'arrête pas tout de suite son appli préférée puisque, comme promis en fin d'émission, je continue ma tournée de remerciements en lisant l'un de vos messages laissés cette fois sur Apple Podcast, un message d'une personne dont le nom va parler aux plus fidèles de cette émission. Il s'agit cette fois de Julie, qui m'écrit « Quelle bonne idée de faire connaître tel ou tel film au travers des yeux d'une personnalité. C'est un nouvel angle très intéressant dans le foisonnement des podcasts ciné. En apprenant le vécu et les anecdotes d'une personne et de son film, on en vient à voir les œuvres tout autrement, une belle découverte. » Merci beaucoup Julie, trop adorable comme message, mais je ne te dis toujours pas merci moi pour Devdas, film culte bollywoodien de près de 3 heures qui m'a traumatisé à jamais. Pour les nouveaux qui découvrent ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode enregistré avec Julie qui nous évoquait sa passion pour Devdas et pour le cinéma indien plus largement. Cette émission était sortie en mai dernier, si mes souvenirs sont bons. Faites comme Julie sur la page Apple Podcast ou Podcast Addict du film qui a changé ma vie. Laissez-nous un commentaire et 5 étoiles afin qu'un grand nombre de personnes puissent découvrir, tout comme vous, ce podcast. Le film qui a changé ma vie, épisode 26, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'épisode que vous venez de suivre ainsi que tous les anciens sur vos applis streaming préférés. Les coulisses de l'émission sont à découvrir sur nos comptes Twitter et Instagram. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je pense que c'est un épisode bonus, mais je m'en dis pas plus. Je vous dis juste à très bientôt. Ciao.